Chapitre 8. Le mauvais fils. Suivirent une série d'années monotones et douces. Jeanne n'avait jamais demandé de détails sur la mort de Julien. Que lui importait? N'en savait-elle pas assez? Tout le monde dans le pays crut à un accident, sauf elle. Il lui restait son fils. Elle se donna tout entière à lui. Il devint l'idole, l'unique pensée des trois êtres réunis autour de lui, sa mère, son grand-père et sa vieille tante Lison, sur lesquels il régnait en despote. Toujours ensemble autour du petit, tantôt dans sa chambre, tantôt dans le grand salon, tantôt dans le jardin. Sa mère l'appelait Paulet par câlinerie. Il ne pouvait articuler ce mot et le prononçait Poulet, ce qui éveillait des rires interminables. Le surnom de Poulet lui resta. On ne le désignait plus autrement. Les rares visites des nobles du voisinage, du maire ou du médecin, troublaient seules régulièrement la solitude du vieux château. Jeanne, qui soupçonnait le nouveau prêtre d'être indirectement responsable de la mort horrible de la comtesse et de Julien, n'entrait plus à l'église, irritée contre le Dieu qui pouvait avoir de pareils ministres. L'enfant avait 10 ans. Sa mère semblait en avoir 40. Il était fort, turbulent, hardi pour grimper dans les arbres. Mais il ne savait pas grand-chose. Les leçons l'ennuyaient et il les interrompait tout de suite. D'ailleurs, toutes les fois que le baron le retenait un peu longtemps devant un livre, Jeanne aussitôt arrivait et envoyait jouer l'enfant. Il était si jeune, elle ne voulait pas qu'on le fatigue. Et elle vivait dans une peur constante, craignant toujours pour lui quelque accident ou quelque maladie. Le temps passait. Poulet continuait sa vie d'enfant gâté. Quand il eut 15 ans, le baron parla du collège, et Jeanne aussitôt se mit à sangloter. Tante Lison effarée se tenait dans un coin sombre. Pour le bien du jeune homme, il fut finalement décidé qu'à la rentrée, on le mettrait au collège du Havre. Il y arriva accompagné de sa mère, de son grand-père et de sa vieille tante Lison. Les adieux furent douloureux. 2 jours à peine après le départ de son fils, Jeanne se rendit au Havre. Poulet semblait avoir déjà pris son parti de la séparation. Pour la première fois de sa vie, il avait des camarades, et le désir de jouer le faisait frémir sur sa chaise au parloir. Jeanne revint ainsi tous les 2 jours, et le dimanche pour les sorties. Le proviseur la fit prier de monter chez lui, et il lui demanda de venir moins souvent, sinon il se verrait forcé de le lui rendre. Et le baron fut prévenu par un mot. Jeanne demeura donc gardée à vue au peuple, comme une prisonnière. Elle attendait les vacances avec plus d'anxiété que son enfant. Chaque fois qu'elle revoyait son fils, il lui semblait qu'ils avaient été séparés pendant 10 ans. Il devenait homme de mois en mois. De mois en mois, elle devenait une vieille femme. Poulet ne travaillait guère. Il doubla sa 4e. La 3e alla tant bien que mal. Mais il fallut recommencer la 2e. Et il se trouva en rhétorique alors qu'il atteignait 20 ans. Bien qu'il eût une tête de plus que sa mère, elle le traitait toujours comme un enfant, lui demandant encore « Tu n'as pas froid aux pieds, Poulet ?» Or, voilà qu'un samedi matin, Jeanne reçut une lettre de son fils lui annonçant qu'il ne viendrait pas le lendemain parce que des amis avaient organisé une partie de plaisir à laquelle il était invité. Jeanne fut torturée d'angoisse pendant toute la journée du dimanche, comme sous la menace d'un malheur. Puis, le jeudi, n'y tenant plus, elle partit pour le Havre. Son fils en profita pour lui dire qu'il ne rentrerait pas le dimanche suivant. Et comme elle s'étonnait, il se mit à rire et l'embrassa. « Ne t'inquiète pas, maman, je vais m'amuser avec des amis. C'est de mon âge !» Mais un matin, un vieil homme assez mal vêtu demanda Madame la Vicomtesse. Il parlait avec un fort accent allemand et après beaucoup de saluts cérémonieux, il tira de sa poche un portefeuille sordide dont il sortit un morceau de papier graisseux. Elle lut, relut, regarda l'homme. C'était un usurier qui lui réclamait 1500 francs. Paul avait des dettes. Jeanne, incrédule, fit venir son père. Quand le baron arriva, il comprit tout de suite la situation. Des 1500 francs, il en paya 1000 en disant à l'homme de ne plus revenir. L'autre remercia, salua et disparut. Le grand-père et la mère partirent aussitôt pour Le Havre. Mais, en arrivant au collège, ils apprirent que depuis un mois, Paul n'y était point venu. Le principal avait reçu 4 lettres signées de Jeanne pour annoncer un malaise de son élève. Il fut atterré et il restait là, se regardant. Le lendemain, on retrouva le jeune homme chez une fille entretenue de la ville. Son grand-père et sa mère l'emmenèrent au peuple sans qu'un mot ne soit échangé entre eux tout le long de la route. Jeanne pleurait, la figure dans son mouchoir. Paul regardait la campagne, d'un air indifférent. En 8 jours, on découvrit que pendant les 3 derniers mois, il avait fait 15 000 francs de dette. Aucune explication n'eut lieu. On voulait le reconquérir par la douceur. Un soir, Paul ne rentra pas. On apprit qu'il était sorti en barque avec 2 matelots et qu'il s'était fait conduire au Havre. La police eut beau le rechercher, elle ne le retrouva pas. La fille qu'il avait cachée une première fois avait aussi disparu sans laisser de traces. Dans la chambre de Paul, au peuple, on découvrit 2 lettres de cette créature qui paraissait folle d'amour pour lui. Elle parlait d'un voyage en Angleterre, ayant trouvé les fonds nécessaires, disait-elle. Jeanne reçut, en effet, 2 jours plus tard, une lettre de son fils. « Ma chère maman, n'aie pas d'inquiétude. Je suis à Londres, en bonne santé, mais j'ai grand besoin d'argent. Nous n'avons plus un sou et nous ne mangeons pas tous les jours. Tu serais donc bien aimable de m'avancer 1500 francs sur l'héritage de papa, puisque je vais être bientôt majeure. Tu me tireras d'un grand embarras. » Jeanne envoya les 15 000 francs et ne reçut plus de nouvelles pendant 5 mois. Puis un homme d'affaires se présenta pour régler les détails de la succession de Julien. Jeanne et le baron rendirent les comptes sans discuter, abandonnant même l'usufruit qui revenait à la mère. Et, rentré à Paris, Paul toucha 120 000 francs. Il écrivit alors 4 courtes lettres en 6 mois, dans l'une desquelles il disait s'être fait une position à la bourse. Il ne disait pas un mot de sa maîtresse, mais Jeanne, dans ses lettres glacées, sentait la présence embusquée de l'ennemi éternel des mères, la fille. Les 3 solitaires discutaient sur ce qu'on pouvait faire pour sauver Paul, et ils ne trouvaient rien. Un voyage à Paris? À quoi bon? Il fallait laisser s'user sa passion, disait le baron. Il reviendra tout seul. Mais leur vie était lamentable. Puis, quelques mois plus tard, cette lettre. « Ma pauvre maman, je suis perdue. Je n'ai plus qu'à me brûler la cervelle si tu ne viens pas à mon secours. Une spéculation qui présentait pour moi toutes les chances de succès vient d'échouer. Et je dois 85 000 francs. C'est le déshonneur si je ne paye pas, la ruine, l'impossibilité de rien faire désormais. Je suis perdue. Je t'embrasse du fond du cœur, ma chère maman. C'est peut-être pour toujours. Adieu, Paul. » Le baron répondit poste pour poste qu'on allait aviser. Puis il partit pour Le Havre afin de se renseigner et il hypothéqua des terres pour se procurer l'argent qui fut envoyé à Paul. Le jeune homme répondit 3 lettres de remerciements enthousiastes et de tendresse passionnée, annonçant sa venue immédiate pour embrasser ses chers parents. Il ne vint pas. Une année entière s'écoula. Jeanne et le baron allaient partir pour Paris afin de le trouver et de tenter un dernier effort quand on apprit par un mot qu'il était à Londres de nouveau, montant une entreprise de paquebots à vapeur. 3 mois plus tard, la compagnie de paquebots était mise en faillite et le directeur poursuivi pour irrégularité dans les écritures commerciales. Jeanne eut une crise de nerfs qui dura plusieurs heures. Le baron repartit au Havre, s'informa, vit des avocats. Le déficit de la société Delamare était de 235 000 francs. Il fallut hypothéquer le château des Peuples et les deux fermes. Un soir, comme le baron réglait les dernières formalités dans le cabinet d'un homme d'affaires, il roula sur le parquet, frappé d'une attaque d'apoplexie. Sa fille fut prévenue par un cavalier. Quand elle arriva, il était mort. Jeanne vécut alors dans un tel affaissement d'esprit qu'elle semblait ne plus rien comprendre. Et vers la fin de l'hiver, Tante Lison, âgée alors de 68 ans, eut une bronchite qui dégénéra en fluxion de poitrine, et elle expira doucement. Jeanne la suivit au cimetière, vit tomber la terre sur le cercueil, et comme elle s'affaissait avec l'envie au cœur de mourir aussi, de ne plus souffrir, de ne plus penser, une forte paysanne la saisit dans ses bras et l'emporta comme elle aurait fait d'un petit enfant. Jeanne s'éveilla vers le milieu de la nuit. Elle était couchée dans son lit. Une veilleuse brûlait sur la cheminée. Elle vit qu'une femme dormait dans un fauteuil. Qui était cette femme? Elle ne la reconnaissait pas. Et elle cherchait, s'étant penchée au bord de sa couche, pour bien distinguer ses traits sous la lueur tremblotante de la lampe à huile. Il lui semblait pourtant qu'elle avait vu cette figure. Mais quand? Mais où? Jeanne la regardait obstinément dans ce trouble d'esprit du réveil après le sommeil fiévreux qui suit les grands malheurs. Certes, elle avait vu ce visage. Était-ce autrefois? Était-ce récemment? Elle n'en savait rien. Et cette obsession l'agitait, l'énervait. Elle se leva doucement pour regarder de plus près la dormeuse. Elle s'approcha sur la pointe des pieds. C'était la femme qui l'avait relevée au cimetière. Elle se rappelait cela confusément. La femme souleva sa paupière, aperçut Jeanne et se dressa brusquement. Elle se trouvait face à face, si près que leur poitrine se frôlait. Jeanne demanda. « Qui êtes-vous ? » Mais la femme, ouvrant les bras, la saisit, l'enleva de nouveau et la reporta sur son lit avec la force d'un homme. Et comme elle la reposait doucement sur ses draps, penchée, presque couchée sur Jeanne, elle se mit à pleurer en l'embrassant éperdument. « Ma pauvre maîtresse, ma pauvre maîtresse, vous ne me reconnaissez donc point ? Rosalie ! » Jeanne reconnut alors son ancienne servante et lui jeta les deux bras au cou. Elles sanglotaient toutes les deux, enlacées étroitement, mêlant leurs pleurs, ne pouvant plus desserrer leurs bras. Rosalie se calma la première. « Allons, faut être sage, dit-elle, et ne pas attraper froid. » Elle ramassa les couvertures, reborda le lit, replaça l'oreiller sous la tête de son ancienne maîtresse qui continuait à suffoquer, toute vibrante de vieux souvenirs surgis en son âme.